Chers amis, frères et sœurs, vous qui cherchez, vous qui êtes à la recherche d'une parole, d'une consolation, d'une lumière, je vous conduis dans l'évangile de l'Ancien Testament. Parce que je crois que la Bible n'est qu'une bonne nouvelle d'un Dieu qui est dans la mêlée de la vie et qui nous appelle à lui faire confiance, à saisir sa main. Je vous conduis dans le livre de Josué. C'est tout au début de la Bible, au chapitre 6 et au verset 22. Mais avant de lire ce texte et d'en tirer pour nous quelques leçons, quelques encouragements et consolations, j'aimerais prier le Seigneur. Tu nous convoques aujourd'hui et tu veux nous parler parce que ta parole produit en nous du courage, du pardon, de la paix. Ta parole produit en nous un cœur neuf et nous en avons besoin. Seigneur, dans ce temps trouble comme dans tous les temps, il reste un sauveur qui n'est jamais hors du monde, qui est au milieu du monde, qui reste toujours avec les humains, c'est le Christ. Adresse-nous ta parole. Parle à chacun de nous aujourd'hui et que ton message nous interpelle, nous saisisse, nous bouleverse, nous sauve. Au nom de Jésus, amen. Je vous invite donc à lire au chapitre 6 de Josué à partir du verset 22. Vous devez connaître sûrement les fameuses trompettes de Jéricho. On en a fait un magnifique Negro Spirit Wall. Parce que Jéricho, c'est une ville, exemple Saint-Malo, mais multipliée par deux ou trois. Et cette ville était sur le retour des enfants d'Israël quand ils sont revenus d'Égypte en passant par la mer Rouge, le désert du Sinaï, etc. Il y avait sur leur chemin une ville, une forteresse, des soldats, un blocage, un verrou, une résistance. Alors, pour entrer dans la terre promise, Josué a envoyé des espions, deux, pour explorer la ville, se cacher, bien sûr, faire attention. Et ils ont trouvé un endroit où ils pourraient se cacher et regarder un peu comment est la ville pour s'en emparer. Qu'on leur pardonne, c'était la maison d'une prostituée. C'était pas le meilleur endroit quand même. Surtout qu'il devait y avoir des allées et venues. Enfin, ils se sont mis là et ont observé avant de retourner, dire tout à Josué, leur chef. Les renseignements étaient pris et puis l'armée d'Israël est arrivée. Notre Dieu n'est pas un Dieu de cruauté et de mort. Mais vous allez voir, enfin, le temps nous manquerait pour vous dire que ces gens-là résistaient à tout, même à Dieu. Quand les enfants d'Israël sont venus, ce ne sont pas les enfants d'Israël, ils n'avaient pas des machines pour cela, c'est Dieu lui-même qui a fait tomber les murailles. Et la ville s'écroula. Cette ville avec deux murailles s'est écroulée comme un château de cartes. C'est un jour terrible. J'imagine qu'il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des hommes. Vous savez, mes amis, que Dieu, le Seigneur, viendra du ciel pour juger les vivants et les morts. Nous le disons dans le credo et parfois nous ne le réalisons pas. Et ce sera un jour terrible, quand il jugera les peuples, les familles, chacun, sur ce qu'il a fait de bien ou de mal étant dans son corps. Ce sera un jour terrible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors, je fais la lecture avec vous. Je répète, Josué 6, verset 22. Josué dit aux deux hommes, les fameux espions, qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée, c'était juste avant, juste au moment où les murailles se sont écroulées, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, c'est elle, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville qui était déjà tombée et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Qui est cette femme? Cette femme qui a été sauvée peut être une des rares escapées. Cette femme qui a sauvé deux Juifs. On dit aujourd'hui que les gens qui ont protégé des Juifs, qui ont caché des Juifs durant la guerre, qui les ont sauvés, on les appelle les justes des nations. C'est Israël qui nous appelle comme ça. Les justes des nations. Nous avions dans l'église de Louviers, il y a déjà quelques années, un homme qui avait sauvé des Juifs par centaines. Puis cet homme a été dénoncé et il est parti à Auschwitz. Et il est revenu en très mauvais état. Et quand nous sommes arrivés quelques années plus tard, bien sûr, il est décédé, on l'a très peu connu. Il faisait partie des justes des nations. Eh bien, cette femme, c'est une courtisane. Je vais employer un mot gentil. Une prostituée qui a reçu chez elle, quand ils ont frappé à la porte, elle devait bien s'attendre à voir des messieurs. Elle a reçu chez elle deux hommes, soldats, espions de l'armée d'Israël. Que va-t-elle faire? Parce qu'ils viennent pour détruire la ville. Que va-t-elle faire? Elle n'a pas le temps de réfléchir. Le roi d'Israël est déjà à sa porte parce que le service de renseignement marche bien. Le roi d'Israël sait déjà tout, comme le diable sait déjà tout. Et le roi d'Israël lui dit « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. » C'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. Autrement dit, c'est pour nous faire du mal, c'est pour détruire notre ville qu'ils sont venus. Fais-les sortir de chez toi. Rahab est bien futée. Vite, elle prend les hommes. Elle les fait mettre sur le toit de sa maison parce qu'ils avaient l'avantage à cette époque d'avoir des toits plats. Elle les met sur le toit de sa maison, elle les cache sous des tiges de lin, ils sont devenus invisibles, et elle peut redescendre pour dire au roi, « Oui, des hommes sont venus chez moi, comme d'habitude, mais ils sont partis. » Premier mensonge. « Je ne sais pas où ils sont. » Deuxième mensonge. « Courez par là, et vous les trouverez. » Troisième mensonge. Ça vous choque qu'il y ait eu du mensonge? Vous auriez préféré qu'elle dise « Ils sont là-haut, tuez-les bien, net, clair. » Elle avait le choix, bien sûr, entre dire la vérité ou sauver et peut-être participer à l'histoire d'Israël. Et à cause de sa réaction de foi, de confiance, eh bien, toute la ville de Jéricho va être bouleversée, la ville va s'ouvrir, les enfants d'Israël vont prendre possession du pays comme Dieu leur avait promis. Et cette femme, quand le roi est parti et sa troupe, elle est montée sur le toit de sa maison, elle a revu les hommes cachés sous le lin, et puis elle a commencé à leur ouvrir son cœur. elle va parler. Un peu trop. Mais enfin, elle va bien parler. Elle va dire, vous savez, toute la ville a peur de vous. Toute la ville craint ce Dieu d'Israël. Depuis que vous avez passé la mer Rouge, il y a de ça 40 ans, en 40 ans, on ne perd pas la mémoire des choses graves. Depuis que vous avez traversé la mer Rouge à sec, la ville a peur de vous. C'est bon à savoir quand même, non? La ville est démoralisée. Tout le monde est démoralisé. Les enfants d'Israël et la femme ont dû dire « Parfait pour nous ». Et les enfants de, les hommes de Jéricho ont mis leur confiance pour résister à ce passage, ce torrent, cette tempête des enfants d'Israël et de Dieu. Ils ont mis leur confiance dans leurs murailles. Deux épaisses murailles sur lesquelles on pourrait conduire sa voiture. Avec ça, il n'y a pas de souci. Oui, mais ces murailles, ce sont des murailles de paille devant Dieu, qui n'existent pas devant Dieu. Toutes nos murailles devant Dieu sont de la paille. Combien de gens m'ont dit, oh moi, vous savez, devant Dieu, j'ai ma conscience pour moi. J'ai pas tué, j'ai pas volé. Enfin, là, ici, deux gros péchés, mais il y a quand même d'autres péchés. Hein. Certains m'ont dit, j'ai ma religion. J'ai confiance, on ne sait pas en quoi et en qui et pourquoi, j'ai confiance. Tout cela n'est que muraille de paille devant la venue du Seigneur. Nous avons un sauveur à chercher, qui nous accueille, qui nous tend les bras, et non pas simplement mettre notre confiance dans un Dieu illusoire. Donc derrière la force de Jéricho, ses murailles, ses soldats, ses armes, ses casques, tout est fragile. Dans le monde aujourd'hui, tout est fragile. Le monde est liquide aujourd'hui. Tout peut s'écrouler du jour au lendemain. L'économie, la paix mondiale, les familles s'écroulent. Partout, nous sentons la fragilité. Et Rahab, elle ne tremble pas devant l'écho qu'elle a entendu, je ne sais pas quel âge elle a, mais peut-être que sa mère lui a dit, tu sais ma fille, fais attention, il y a un peuple de nomades là, qui traînent dans le désert, ils ont traversé la mer Rouge, leur Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Ma fille, fais attention à eux, ils sont dangereux ces Romains Michel. C'était les enfants d'Israël. Peut-être qu'elle a entendu parler sa mère comme ça. Mais elle, au lieu de trembler comme les autres, elle va se convertir au Dieu d'Israël. Elle va implorer la bonté de ce Dieu. Parce que si un Dieu est capable de conduire un peuple dans le désert, s'il est capable d'ouvrir la mer Rouge, c'est qu'il y a en lui de la bonté. Et s'il y a de la bonté, on peut frapper à sa porte. Et s'il y a de la bonté, on peut espérer. Quand on connaît l'amour de Dieu, on peut lui faire confiance et on peut espérer en lui. On n'a rien à craindre. Alors devant cette vérité, elle s'est convertie. Devant la vérité de l'Évangile, mes amis, pourquoi hésiter? Pourquoi remettre à demain cette décision vitale, puisque nul ne sait si demain il mourra? Parce que Rahab, elle ne sait pas comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'elle va faire dans ce bouleversement de la ville de Jéricho. Mais au fond d'elle-même, elle se dit, mais enfin, qu'est-ce que j'ai à espérer? Moi la prostituée? Moi la femme aimée et rejetée? Comment s'est-elle convertie? Comment a-t-elle donné sa confiance dans un Dieu qu'elle ne connaît pas, dans le Dieu d'un peuple qu'elle ne connaît pas, que de renommée? Elle a dit aux espions qui étaient cachés là-haut sur la toiture, elle a dit, nous avons appris que Dieu a mis à sec les eaux de la mer Rouge. Et c'est le Dieu du ciel et c'est le Dieu de la terre. Par 20 sur 20. Très belle confession de foi. C'est le Dieu du ciel et c'est le Dieu de la terre. Alors nous avons appris cela. Et elle s'est convertie. La foi ne vient pas naturellement dans notre cœur. La foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Nous ne naissons pas avec la foi. La foi, c'est un don de Dieu qui nous est donné quand nous entendons l'Évangile clairement. C'est Dieu qui ouvre notre cœur. Elle n'a pas demandé à changer de religion seulement. C'était une histoire de vie ou de mort. Elle a demandé à être sauvée. Parce que la muraille va s'écrouler dans quelques heures. Elle a demandé à être sauvée, à être épargnée. Et comme cette femme avait du cœur, à être épargnée, elle, je n'ai pas dit son mari, mais son frère, ses sœurs, son père, sa mère, sa famille, et tous ceux qui voudront. Elle a très bien joué quand même. Je voudrais être sauvée avec ma famille. Elle avait compris, cette femme. Ce que je souhaiterais que vous compreniez aussi, que si Dieu n'est pas aujourd'hui notre sauveur, demain, il sera notre juge. Parce que demain, nous devrons lui rendre des comptes. Mais si aujourd'hui, il est notre sauveur, alors nous sommes passés de la mort à la vie, nous n'allons plus en jugement, dit l'Évangile selon Jean. Qu'espérez-vous aujourd'hui, mes amis? Pouvoir continuer comme ça, marcher sur le fil de la vie? Funambule expérimenté, bien sûr. Nous avons l'habitude de marcher sur un fil. Et nous pensons que ça va aller comme ça encore très longtemps. Mais la vieillesse nous gagne et nous ne nous en rendons pas compte. La maladie est déjà là et nous ne le savons pas. Peut-être l'accident demain. Nous avons besoin de déclarer Dieu, non pas juge, mais notre sauveur. Dans cette ville de Jéricho, dites-moi, qui l'aurait pensé? Qui l'aurait imaginé? Cette ville d'hommes forts, gaillards, un peu durs et méchants. C'est une femme seule qui s'est convertie. Une prostituée. Jésus disait, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Car ceux qui sont parfois allés très bas sont capables de monter très haut parce qu'ils ont soif de la grâce et du pardon de Dieu. Voilà cette prostituée. Au temps de Jésus, Jésus l'aurait rencontrée. Comme il en a rencontré d'autres. Mais, a dû dire la femme, comment je vais être épargnée? Parce qu'ils avaient fait la promesse, quand on va venir, il y aura de la bousculade, mais tu seras épargnée. Mais comment, messieurs, je vais être épargnée? Quand les murailles vont tomber dans la poussière, le fracas, le bouleversement, quand Dieu lui-même va combattre avec vous, invisible. Comment vous allez me reconnaître? Alors les hommes ont dit, cette parole un peu folle, tu mettras un fil rouge à ta fenêtre, un fil rouge. Oh, j'en ai justement un que j'ai pas utilisé, dit la couturière, un tout petit fil. 28 centimètres, est-ce que ça va? Oui, ça peut aller. Mais c'est de la folie. Quand l'armée russe est arrivée à Berlin, si quelqu'un avait mis un fil à la fenêtre, qu'il l'aurait vu. Elle a fait confiance à la parole de ces hommes, parole de Dieu. Elle a fait confiance au fil rouge. Et elle a convaincu son père qui devait dire, ma fille, mais tu perds la raison, tu ne te rends pas compte qu'ils ne vont pas voir le fil. Il y aura tellement de poussière et de brouillard qu'ils ne verront rien. Elle a convaincu son père, elle a convaincu sa mère, ses frères et ses sœurs, et ils sont tous venus chez elle se réfugier. Chez elle, c'est comme une arche de Noé. Tout le monde se réfugie avant le déluge. C'est une maison cachette. Tout le monde est là. Oh, si cette femme avait été Abraham, elle aurait peut-être convaincu toute la ville en disant, je vous en supplie, mettez un fil rouge à votre fenêtre. Tous. Et peut-être que la ville de Jéricho serait couverte de fils rouges. Et la ville serait toujours encore là avec nous. Comme un carnaval, comme des Jeux Olympiques, on aurait vu des fils rouges partout. Pour dire, nous avons confiance et pitié de nous, Seigneur. Eh bien, ce fil rouge, mes amis, il est partout dans la Bible. C'est l'amour de Dieu. Ce fil, il faut l'attacher bien à notre vie. C'est l'amour de Jésus sur la croix, ce fil rouge. Ce fil, Dieu le voit. Ce fil, c'est une promesse que personne n'effacera, ni dans le ciel, ni sur la terre. Ni les démons, ni le plus terrible des hommes ne peut effacer la promesse du fil rouge, la promesse de l'amour de Dieu. J'aime bien ce fil, comme s'il était fait pour s'attacher à Dieu. Un fil, c'est fait pour attacher. Ce fil, je l'aime bien, ça me fait penser que c'est fait aussi pour recoudre ce qui est déchiré. Il y a des déchirures entre Dieu et nous. Il faut les recoudre. Il faut se réconcilier avec lui. Ce fil me fait penser qu'il faut renouer avec Dieu, avec les autres, qu'il faut s'accrocher à Dieu. Il tient bon ce fil. C'est un fil qui peut tenir le monde entier. Le fil de l'amour de Dieu peut tenir le monde entier, le globe terrestre complètement à lui seul. Vous le croyez ? Amen. Mais ce fil, le verront-ils ? Dieu le verra-t-il ? C'est tellement petit. Toute cette pagaille qui va arriver. Pourquoi ne pas mettre des linges rouges ? Pourquoi ne pas mettre des croix rouges ? Pourquoi ne pas mettre des feux rouges ? Pourquoi un petit fil seulement ? Un tout petit fil rouge ? Est-ce que Dieu est aveugle pour ne pas le voir, ce fil rouge ? Dites-moi. Est-ce que Dieu est étourdi ou trop occupé ? Ce petit fil de ta prière, Dieu le voit. Ce petit fil de tes soupirs, de tes chagrins, Dieu le voit. Il voit tout ce qui est petit. Dans l'Évangile, quand il compte le Christ, c'est toujours des petits chiffres. 5 pains, 2 poissons. Des petites choses, et il les voit, il les voit. Il voit le fil de tes pensées. Il voit le fil que personne ne peut voir. Il voit la toile d'araignée, il voit tout. Et notre vie tient un fil, mes amis. Souvent, nous le disons, la vie tient un fil. Mais oui, c'est vrai, la vie tient au fil de l'amour de Dieu. Mais savez-vous, à propos du fil d'araignée, que c'est un des fils les plus solides de toute la planète ? C'est étonnant, hein ? Et avec ce fil, on fait du matériel pour les avions. Et donc, c'est quand même pas rien, quand même. Et avec ce fil de l'amour de Dieu qui s'est manifesté, montré, dévoilé en Jésus-Christ, là, Dieu nous a dit, voilà comment je vous aime. Il s'est dévoilé en Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ enlevé, glorifié dans le ciel. Ce fil rouge-là est indestructible. Quand la muraille va s'écrouler, quand il y aura la poussière partout et le débordement général, Dieu verra le fil et Dieu se rappellera de vous. Vous savez comment on peut traverser un fleuve ? Avec un fil. On passe le fil d'abord, puis au bout du fil, on met une petite barre un petit peu plus solide, puis on passe. Puis au bout de la barre, on met un câble encore plus fort, et on passe le câble. Puis au bout du câble, on met un gros morceau de métal immense, Puis au bout du morceau de métal, on met un pont. On commence petit, puis on finit très grand. Dieu, dans le Nouveau Testament, nous a parlé de la foi de Rahab, qui, dans la confiance en Dieu, a caché ces deux hommes. Mais dans la confiance aussi, elle a mis sur sa fenêtre ce petit signal qui représentait sa confiance, son espérance, l'amour de Dieu. Dieu travaille avec des petites choses. Et nous ne travaillons qu'avec des petites choses. À nous d'accueillir Jésus aujourd'hui. Et je ne souhaite pas que cette histoire vous fasse penser au pire. Mais quand même, imaginez bien quand les murailles se sont écroulées dans cette pagaille, tout a dû bouger et la famille était là, protégée par Dieu et protégée par les soldats d'Israël. Jésus disait, parce que ce fil pour moi représente bien la parole qu'il a donnée, parole certaine, parole véritable, parole sur laquelle il ne revient pas, parole qu'il a signée de sa propre mort. Jésus disait, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous m'avez bien entendu? Il ne verra jamais la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'ils sont morts aussi. Ils sont passés sans voir la mort. Ils sont entrés dans la maison de Dieu sans voir les affres, l'obscurité, la vallée sombre de la mort. Jésus disait, si quelqu'un écoute ma parole, c'est-à-dire ce petit fil, si quelqu'un écoute ma parole, il a la vie éternelle. Il l'a. Elle est déjà en lui. Et il ne va pas en jugement. Il ne sera pas appelé au tribunal. Au tribunal de Dieu. Pour être condamné. Il est passé, si quelqu'un garde cette parole, ce petit fil, il est passé de la mort à la vie. C'est beau? Amen. Rahab a été sauvé. On l'a mis un petit peu à l'écart parce que c'était la grande pagaille quand même. Hein. Et voilà qu'il y a eu un coup de foudre. Ça peut arriver. Non? Rahab a eu un petit coup de foudre pour un monsieur qui s'appelle Monsieur Salmon. Je ne sais pas si c'est l'espion, je ne sais pas si c'est un des espions. Enfin, il y a eu le coup de foudre, bref. Et ils se sont mariés. Elle s'est mariée avec un fils d'Israël. Ben c'est bien, non? Et puis, ils ont eu des enfants, et surtout un que je connais personnellement. Enfin, je le connais d'après la Bible, bien sûr. Et cet enfant, c'est Boaz. Vous connaissez Boaz, ceux qui lisent un petit peu la Bible. Ben, c'est son fils. Bravo, alléluia, amen. Et Boaz, il a épousé une étrangère. Ben, comme la mère, elle a épousé un étranger, hein, c'est tout. Et Boaz, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire jusqu'à nos jours, eh bien Boaz, qui a épousé Ruth, ils ont eu un fils, ils ont eu des enfants, ils ont eu des petits-enfants, et un de leurs petits-enfants, écoutez bien, un de leurs petits-enfants, s'est appelé David. Là, tout le monde connaît le roi David. Et dans la descendance de David, qui vous avez? Jésus. Alors, Rahab est l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus. C'est beau, hein? On ne connaît pas tout ce qui est devant nous. On ne connaît pas beaucoup ce qui est derrière nous. On ne connaît pas du tout ce qui est devant nous. Mais quand on met le pied dans l'amour de Dieu, dans la foi, Dieu peut nous conduire beaucoup plus loin qu'on le pense. Si on avait dit à Rahab, tu sais, dans ta descendance, il y aura quelqu'un qui va sauver le monde, qui va nous ressusciter tous. Elle aurait dit, mais vous perdez la tête, messieurs, dames, vous perdez la tête. C'était ça. Et si je vous dis aujourd'hui, un jour, nous marcherons ensemble, vous et moi, dans les rues de la nouvelle Jérusalem qui est dans le ciel, vous allez me dire à la sortie, vous perdez la tête, vous perdez la tête. Et c'est pourtant la vérité. Nous sommes faits pour entrer dans la maison de Dieu. C'est bien là notre espérance. Je dis toujours à des gens qui me disent « Oh, pas maintenant, pas maintenant. Ouh, ce sera dans des milliards d'années. » Ah bon, vous voulez attendre des milliards d'années pour vous fiancer, pour vous marier ? Pour vous marier avec le Christ, pour vivre avec lui, pour être à sa table, pour être nourri par lui. Il sera notre serviteur à la table du royaume. Seigneur, dit l'Église dans l'Apocalypse, viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Le monde est sur son déclin, mes amis. On le voit bien partout, tout part en déconfiture. L'Apocalypse semble déjà là. L'Apocalypse que nous imaginions, eh bien, je crois que c'est plus la peine de l'imaginer, déjà nous la voyons. C'est le temps favorable, c'est le jour du salut. Accrochons notre fil, accrochons notre vie à Dieu, accrochons notre cœur à son cœur. Dieu ne veut pas notre destruction, notre perte, notre détresse, notre perdition. Il veut nous accueillir comme des fils et des filles bien-aimés. Personne n'est exclu de Dieu. Personne n'est rejeté par Dieu. Personne n'est condamné d'avance. Personne n'est sur une liste noire. Nous sommes aimés avant notre naissance et appelés à le connaître. Accueillez le Christ pour qu'il vous accueille dans son royaume. Amen. Comme Rahab. Puis comme d'autres, comme Bartimée, comme Zachée, comme la Samaritaine, et tant dans l'Évangile, accueillons Jésus. Entre Seigneur, ma maison est à toi. Et lui nous dira, entre mon serviteur, dans la joie de ton maître, le royaume est à toi. Amen. Prions le Seigneur. Merci pour ta parole, cette lumière qui éclaire nos ténèbres d'aujourd'hui. Nos pensées sont obscurcies par les choses que nous vivons. Notre espérance s'est voilée parfois. Et nous avons besoin d'une parole claire, d'une parole de feu, d'une parole de lumière. Tu ne te caches pas devant ceux qui te cherchent. Tu ne fais pas défaut à la parole que tu donnes à quelqu'un. Tu as tenu parole à Rahab. Tu as tenu parole au monde. Tu es venu dans le monde pour chercher ce qui était perdu. Efface nos péchés, Seigneur. Garde-nous du mal, Seigneur. Donne-nous ton amour qui ressuscite, qui pardonne, qui relève, qui guérit, qui console, qui transforme. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.